afraid I can't do that.
Est-ce que c'est une révolution physique? Toute découverte est une sorte de révolution.
Et ma position, c'est qu'il faut confier aux machines plus de responsabilités.
Today, we are delighted to have with us as guest on this program, Dr. Albert Einstein.
Eh bien, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir Thibault.
Alors, vous écoutez, dans une heure c'est terminé, mais en fait, c'est dans 20 minutes c'est terminé.
Oui. Exceptionnellement.
Exceptionnellement.
Oui. Voilà, pour fêter Radio Panique, les 35 ans.
Les joyeux anniversaires Radio Panique.
Joyeux anniversaire Radio Panique. Alors, aujourd'hui, le collectif est en effectif réduit.
Bah oui, on est mercredi.
Bah oui, d'habitude on est le mardi, nous. D'habitude, on est le mardi.
Mardi de 19 à 20 heures.
Le premier mardi et le troisième mardi de chaque mois. Dans une heure c'est terminé, qu'est-ce que c'est, Elisa?
Alors, c'est une émission de vulgarisation scientifique, mais pas seulement, puisqu'on choisit des thèmes qui sont aussi avec un ancrage citoyen et on débat entre nous, on expose des choses entre nous, tout en essayant de rester ancré dans la réalité des gens et de ne pas partir dans des délires trop scientifiques, trop précis.
Et on fait ça depuis combien de temps? J'ai oublié.
Alors nous allons bientôt fêter notre 25e émission, mais ça ce sera en janvier. Donc on est. J'aime pas parler en temps, j'aime parler en nombre d'émissions produites, commises.
Bientôt 25 déjà.
Engendrées. On a accouché de 25 émissions déjà.
Exactement.
Vulgarisation scientifique.
Wow.
Bah dis donc.
Et ouais. Alors qui dit 35 ans dit thème imposé. Le thème imposé c'est 35.
Grosse surprise.
Grosse surprise évidemment. On va commencer avec une nouvelle dans laquelle on retrouve 35, oui. Une nouvelle actuelle. Et après, évidemment, nous vous proposerons, chers auditeurs, un rendez-vous qui est un peu une
marque de fabrique ouais.
De Dans une heure, c'est terminé. C'est les journaux, des news, des actus de la science. Il y en aura deux pendant cette émission, des actualités, mais vous verrez, on a évidemment inventé un petit concept sympa. 35 scientifiques lauréats du prix Nobel ou d'une médaille Fields. Donc je disais bien 35 scientifiques lauréats d'un prix Nobel ou d'une médaille Fields ont alerté la semaine passée, je pense, des autorités britanniques et européennes des risques que fait peser le Brexit sur la recherche scientifique. Ils réclament un accord qui permettrait de maintenir la coopération la plus étroite possible en matière de recherche. Alors, dans l'équipe, nous avons une chercheuse.
C'est moi.
Et quand j'ai évoqué ça lors des 20 minutes de préparation de cette émission, puisque 20 minutes d'émission demandent 20 minutes de préparation.
Bien sûr.
Tout de suite, tu as réagi, tu as dit oui, c'est vrai, oui, j'ai entendu parler de ça.
Oui, c'est quelque chose dont on parle en fait depuis le référendum qui a eu lieu il y a bientôt 2 ans. Et donc effectivement, en fait, la problématique dans la recherche en particulier, c'est que la recherche, elle se veut internationale, parfois de manière un petit peu rigide d'ailleurs. Donc si vous avez envie de faire de la recherche, mais que vous n'êtes pas prêt à vous déplacer 43 fois à l'étranger pour rencontrer des équipes et pour aller vivre à l'étranger, ben, vous êtes un petit peu exclu de la science, il faut dire ce qui est. Mais du coup, la coopération internationale en tant que telle, effectivement, à partir du moment où il y a un pays qui se retrouve isolé sans accord, parce que c'est principalement en fait, le problème du Brexit à l'heure actuelle pour ceux qui ne suivent pas, c'est donc que l'Europe et le Royaume-Uni ont vraiment des difficultés à s'entendre et à trouver un accord qui permettrait notamment en fait, de garder une certaine perméabilité du pays. Et donc, ben, par exemple, c'est très bête à dire, mais s'il n'y a pas d'accord, ben, ça risque d'impliquer qu'il vous faudrait un visa pour aller au Royaume-Uni. Et donc, en fait, au niveau de la recherche scientifique, c'est extrêmement problématique puisque ça réduit la mobilité. Et aussi, en termes de coopération interuniversitaire, internationale, ça pose aussi problème. Et alors aussi des choses qui sont peut-être, qui ont été probablement un peu ignorées de l'opinion publique. Mais en fait, l'Europe en tant que telle est aussi une structure de financement de la recherche. Donc à partir du moment où le Royaume-Uni se coupe de l'Europe, eh bien l'Europe ne finance plus la recherche du Royaume-Uni. Ce qui risque en fait de résulter en ce qu'on appelle une fuite des cerveaux. Donc une fuite des scientifiques vers des pays étrangers.
Les Britanniques vont partir.
Oui, et c'est un peu le problème aussi aux États-Unis pour l'instant avec notre très cher Donald Trump qui est maintenant président et qui a des politiques vis-à-vis du financement de la recherche qui sont particulièrement désastreuses. Et donc il y a aussi une fuite des cerveaux des États-Unis vers d'autres pays. Donc en fait, on est vraiment on tend en tout cas vers une dépréciation complète du monde anglo-saxon dans la recherche scientifique au sens large.
Eh bien voilà, je rappelle la news, 35 scientifiques de renom sonnent l'alerte quant au Brexit. Voilà, ça c'était pour l'actualité. On vous propose un journal des news de l'actu de la science, mais on vous propose de ce journal, non pas aujourd'hui, là, dans le présent, mais il y a 35 ans, c'est-à-dire en 1983. Allez, c'est parti. J'ai mis un nouveau jingle.
Ouais, il y a des effets techniques très impressionnants sur ce jingle.
Et c'est, on est en 1983.
Quelle horreur, je déteste le synthé.
Des intelligences multiples, la première PCR a été réussie, le virus de l'immunodéficience humaine, et puis un peu d'informatique. Tout ça, c'est maintenant dans le journal des news de l'actu de la science de 1983.
Ah ouais, j'adore la science !
Mais oui ! Alors, Elisa, les intelligences multiples, on aurait plusieurs intelligences ?
Mais oui, en tout cas, c'est ce que propose une toute nouvelle théorie qui est par Howard Gardner, voilà, dans son nouveau livre qui vient de sortir, qui s'appelle Frames of Mind. En fait, ce que Gardner postule, c'est qu'il y aurait plusieurs modalités à l'intelligence humaine plutôt qu'un espèce de construit homogène et généralisé. Et donc, ce qu'il propose, lui, c'est de définir différentes modalités et je vais un petit peu vous les lister. Alors, il propose qu'il existe une intelligence musicale et rythmique. Bon, a priori, le nom parle de lui-même, donc ce serait une intelligence qui concerne évidemment la musique et le sens musical, donc notamment l'oreille absolue et ce genre de choses.
Ouais.
Le deuxième type d'intelligence qu'il propose, c'est l'intelligence visuo-spatiale. Là aussi, a priori, voilà, il n'y a pas beaucoup de mystère, ça concerne la capacité à visualiser les choses dans l'espace.
Et à se mouvoir, éventuellement.
Ah non, ça c'est un autre type d'intelligence.
Ah.
Mais oui, c'est l'intelligence kinesthésique.
Bien sûr.
Mais oui, qui concerne le mouvement et le corps dans l'espace. Et donc c'est particulièrement intéressant pour les sportifs, les danseurs ou même les bricoleurs, en fait. On aurait aussi l'intelligence verbale et linguistique, donc ça qui est bien sûr lié avec le fait d'avoir une certaine aisance avec les mots, donc tout ce qui concerne la lecture, l'écriture, mais aussi en fait les capacités de mémorisation des informations qui sont verbales. Donc ça concerne aussi la mémoire. Il y a bien entendu l'intelligence logico-mathématique, pas de mystère non plus à ce niveau-là, c'est les chiffres, les maths, les interactions causales, etc.
Ouais, la vraie intelligence, quoi.
En 1983, moi, cette théorie ne me plaît pas, je m'en fous.
Mais attends, c'est pas fini, il y en a encore des plus horribles pour toi. L'intelligence interpersonnelle, l'empathie, la sensibilité aux autres, la compréhension de leurs humeurs, de leurs sentiments et de leurs états. Et enfin, l'intelligence intrapersonnelle qui serait en fait liée aux capacités d'introspection, donc le fait de s'auto-comprendre, s'auto-analyser. Et donc jusqu'ici, en fait, les tests d'intelligence et le système scolaire de manière générale s'intéressent en fait qu'à trois formes des sept formes que je viens de décrire. Et donc les intelligences d'intérêt pour le système, c'est l'intelligence verbale, logico-mathématique et visio-spatiale. Mais donc voilà peut-être de quoi redonner un peu d'espoir et un peu d'ego à ceux qui ont un peu du mal avec l'école.
Est-ce qu'il se pourrait que ces intelligences fonctionnent en vase communicant ? C'est-à-dire que tu pourrais avoir plus d'intelligence de tel type d'intelligence et moins d'un autre type ?
Mais exemple. Alors, il faut encore, évidemment, c'est tout neuf cette théorie.
Tout neuf,
hein,
ça vient
donc
de sortir.
Il faut, vraiment, à l'instant. Et donc, il faut bien sûr essayer d'un petit peu tester les choses pour voir comment ça se passe. Mais a priori, il ne faut pas non plus, je pense, s'imaginer qu'on a une certaine dose d'intelligence et qu'elle se répartit entre les différentes modalités et que si tu en as beaucoup d'une, bah, tu en as nécessairement moins d'une autre. Je ne suis pas sûre. Éventuellement, tu peux être une superstar dans tous les types d'intelligence.
On est toujours en 1983. Cédric, on va pouvoir détecter des petites quantités de sperme.
Mais qui t'a donné cette phrase d'accroche ? Alors, nous sommes en 1983 et donc pour rappel, il y a 30 ans, en 1953, eh bien Watson et Crick, deux scientifiques, ont enfin mis en évidence la structure de l'ADN. Et cette structure est apparemment en double hélice. Alors l'ADN, petit rappel, c'est cette grosse molécule présente dans toutes les cellules de tous les êtres vivants. Hein,
on vient de découvrir ça.
Ouais,
enfin,
c'est sur le feu maintenant. Donc ça va du chien à la plante, aux champignons. L'ADN est constitutif de toutes ces entités vivantes. Et en fait, il y a jusqu'à hier, hein, donc le 15 décembre 1983, on ne savait pas détecter des petites quantités d'ADN. Ce qui peut être problématique, effectivement, tu donnes l'exemple du sperme sur une scène de crime ou de n'importe quel échantillon organique sur une scène de crime, on ne savait pas le détecter lorsque la quantité était trop peu importante. Et on ne savait pas non plus détecter la présence d'un virus dans le sang quand c'était en quantité trop peu importante. Sauf que Karim Ulis vient d'inventer la PCR, la chaîne à réaction par polymérase, et que c'est absolument prodigieux. Elle arrive avec des amorces et plein de petites molécules dont je comprends pas grand-chose, hein, ça vient d'arriver. Mais elle arrive à amplifier un tout petit échantillon avec un facteur 1 milliard. Et donc si un jour, par exemple, on arrive, je sais pas moi, imaginons qu'on invente des organismes génétiquement modifiés, on pourra les détecter avec cette technique-là. Bon, c'est pas près d'être arrivé, mais je pense que c'est un sacré boom dans le milieu de la biologie moléculaire.
Ouais, impressionnant.
Alors Elisa, on aurait peut-être compris finalement les causes du sida dont on parle de plus en plus, hein, le sida.
Mais oui, vous en avez probablement entendu parler, donc du sida, de ce nouveau syndrome qui fait froid dans le dos. Et donc pour rappel, sida c'est l'acronyme de syndrome d'immunodéficience acquise. Et donc c'est un syndrome qui en fait correspond à un état qui résulte de la destruction des cellules immunitaires. Et donc à partir du moment où vous n'avez plus de cellules immunitaires, eh bien vous risquez de mourir notamment de ce qu'on appelle des maladies opportunistes, c'est-à-dire des maladies qui sont normalement pas particulièrement agressives, mais qui, quand vous êtes immunodéficient, peuvent être catastrophiques et donc mortelles. Mais donc, par exemple, une pneumonie, c'est typique. Alors jusqu'ici, je bafouille, c'est parce que j'ai peur de ce syndrome.
C'est le jet lag temporel à mon avis.
Ouais, non, c'est dur. Mais donc, jusqu'ici, on ne comprenait pas encore les causes de ce syndrome, mais tout récemment, deux équipes de chercheurs différentes, l'une américaine et l'une française, sont arrivées à des conclusions qui sont identiques. Et donc en fait, le syndrome résulterait de l'action d'un virus qui a été découvert dans des ganglions lymphatiques de malades qui sont à un stade pré-sida. Et donc ce virus serait ce qu'on appelle un rétrovirus et s'attaque aux lymphocytes T4. Et c'est des lymphocytes qui jouent un rôle d'intermédiaire dans la réponse immunitaire. Et donc à partir du moment où il vous manque un intermédiaire, bah, votre système immunitaire ne fonctionne plus et ne sait plus vous défendre contre toutes les autres maladies qui risquent de passer et que vous risquez d'attraper. Et donc en fait, comment est-ce qu'ils sont arrivés sur la piste du virus? Finalement, c'est à cause des modes de transmission du sida, puisque c'est...
On les rappelle peut-être pour
ceux
qui
ne les connaissent
pas.
Ben oui, exactement, c'est ce que j'allais proposer. Donc le sida se transmet par voie sanguine et sexuelle, donc je ne peux que vous encourager à être prudent. N'oubliez pas la capote, et puis si vous vous piquez pour des raisons diverses et variées, n'oubliez pas d'utiliser des seringues neuves.
Bon, mon instinct me dit, à mon avis, dans 2 ans, cette maladie est soignée et on a un vaccin et on...
Mais c'est vrai que c'est l'avantage du virus, c'est qu'on se dit qu'il y a peut-être une chance de trouver un vaccin relativement rapidement. C'est le gros espoir auquel on s'accroche.
Ça devrait marcher, ça devrait aller vite.
On peut qu'espérer.
Quant à moi, je voulais terminer par une petite news informatique. Alors, je voulais vous demander...
Un format quoi ?
Informatique. Elisa et Cédric.
Je voulais vous demander, vos news, vous les avez écrites à la main ou vous les avez écrites à la machine ?
À la machine à écrire, oui.
À la machine à écrire. Elisa, est-ce que toi, peut-être, tu détiens un ordinateur chez toi ?
Oh non, c'est beaucoup trop cher. Moi, j'ai pas les moyens de me payer un truc pareil.
Alors, pour ceux qui sont familiers de l'informatique, qui ont éventuellement un ordinateur, vous avez certainement un logiciel chez vous qui s'appelle WordPerfect et qui est en fait un logiciel de traitement de texte qui vous permet en fait de faire un peu comme la machine à écrire, c'est-à-dire écrire, taper votre lettre avec vos lettres avec un clavier, corriger, mettre en gras éventuellement, souligner. Voilà, c'est une avancée technique assez intéressante de ces dernières années. WordPerfect. Alors, sachez que WordPerfect, eh bien, vient de trouver. En fait, il vient d'apparaître un petit nouveau dans ce domaine-là. Alors, le petit nouveau s'appelle Multitool Word. Alors, pas sûr qu'il fasse son trou, parce que vraiment, WordPerfect, c'est ce que les informaticiens préfèrent en ce moment. Microsoft vient de le racheter, de le distribuer. Hein, donc, Microsoft, ça s'appellera Microsoft Word dans quelques jours. Mmh. Et alors, il va bénéficier d'un peu de promo, puisque le magazine PC World a décidé de le distribuer gratuitement en novembre, 1983, donc gratuitement dans une disquette, dans tous les magazines. Donc voilà, voir si ça perce, hein, Microsoft Word, ouais. Ça m'étonnerait parce que vraiment, si vous tentez Word Perfect, vous verrez, c'est vraiment top, quoi.
Mais Microsoft, c'est cette entreprise qui a démarré dans un garage, je ne sais pas si on peut vraiment y croire.
Hein. On n'y croit pas trop.
Et de toute façon, je pense que vraiment, ça ne détrônera pas la machine à écrire de manière générale, ces trucs de computer, d'ordinateur, je comprends rien, c'est bazar. D'office, c'est mort. Enfin, de nouveau, c'est mon intuition, hein. Je pense que...
Moi, je suis parti sur un Commodore, là, on verra bien. On vous propose un tout nouveau tube, quelque chose qui vient de sortir.
Une exclusivité
pour Radio Panique. Ça s'appelle, vous le connaissez, c'est Elton John, ça s'appelle I'm Still Standing. Ça vient de sortir, c'est vachement
tout neuf,
bon.
Probablement
c'est vachement
première
bon.
Diffusion.
Voilà, c'est parti, I'm Still Standing. On a beaucoup parlé, on revient juste après. It's just like ice, and there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the wreck you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way. And if you need to know while I'm still standing, you just fade away.
don't you know I'm still standing better than I ever did? Looking like a true survivor, feeling like a little kid. And I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
I'm still standing.
Yeah, yeah, yeah.
What I never could have hoped to win, you're stopping down the road and leaving me again. The threats you made were meant to cut me down. And if my love was just a circus, you'd be a clown.
Écoutez, dans une heure, c'est terminé, on est toujours sur Radio Panique et nous sommes en 2053 et le collectif vous propose son journal des news de l'actu de la science. Alors, Elisa, c'est laquelle de tes news? Je ne sais plus.
Je pense que la semaine, la semaine passée, le premier accouchement sur Mars
a eu lieu.
Mais oui, ça y est, le premier bébé de la colonie installée sur Mars est né la semaine dernière. Alors l'accouchement s'est déroulé aussi bien que possible, hein, compte tenu des circonstances. Donc pour rappel, la problématique, hein, c'était que sur Mars, la gravité est trois fois inférieure environ à celle de la Terre. Et donc ça inquiétait pas mal les gynécologues et les anesthésistes. Pas tellement pour la naissance, parce que les contractions utérines fonctionnent et que de toute façon, cette naissance était programmée par césarienne par souci de sécurité. Mais en fait, il y a eu un petit souci avec l'anesthésie. Parce que, en fait, normalement, sur Terre, l'écoulement de l'anesthésiant, donc du produit qu'on injecte en rachianesthésie, quand on s'apprête à performer une césarienne, donc, se fait notamment grâce à la gravité. Donc le produit s'écoule vers le bas de la colonne. Évidemment. Et dans ce cas-ci, voilà, le produit s'est moins bien écoulé et s'est aussi un petit peu dispersé vers le haut. Donc ça a déclenché une petite détresse respiratoire chez la maman. Mais ne vous inquiétez pas, tout le monde va bien. Les médecins, évidemment, avaient prévu ce type de soucis. Et donc maman et bébé vont très bien.
Est-ce qu'on a une idée du prénom du bébé?
Écoute, ça n'est pas, non, ça n'a pas encore été révélé. Je pense que la famille essaye d'avoir un petit peu de discrétion à ce niveau-là. Mais donc ça y est, on fait la blague depuis 40 ans, mais donc maintenant sur les passeports, il va falloir noter la terre de naissance.
On envoie bien sûr nos salutations à cette colonie qui nous écoute en multicast, qui a remplacé donc il y a quelques années le podcast.
N'importe quoi.
Alors Cédric, on est toujours un petit peu dans l'exploration spatiale puisque les échanges se clarifient avec la planète 105.4.
Absolument, pour les plus distraits d'entre nous, il y a 35 ans maintenant déjà en 2018, la Terre recevait un premier signal de la planète 105.4.
Hein, c'était en novembre, je pense.
C'était en novembre. Fin octobre-novembre, qui est une planète située autour d'une étoile Proxima du Centaure. Et donc il a fallu 35 ans pour un petit peu établir une vraie communication et créer une sorte d'alphabet, de code pour communiquer avec eux. Alors en deux mots, mais tout le monde le sait bien, ce qui s'est fait, c'est qu'on a placé des filtres devant nos étoiles respectives, nous le Soleil et eux Proxima du Centaure. Et ces filtres, en modifiant un peu la lumière, ont finalement permis de constituer des messages. Voilà, il y a un alphabet maintenant de 78 concepts idées qui vient d'être établi. Et ça a pris 35 ans, mais je suis très content. Je pense que ce sont les paniquiens et les paniquiennes qui habitent désormais cette planète et on va peut-être en savoir plus dans les années qui arrivent.
Vivement.
Vivement. Quant à moi, je voulais terminer très brièvement avec cette nouvelle, évidemment, qui vous aura certainement marqué aujourd'hui, puisqu'on vient d'apprendre que la première intelligence artificielle, au niveau politique, la première intelligence artificielle est en tête des sondages pour les élections communales à Saint-Jos. Voilà.
Non.
Cette intelligence artificielle qui s'appelle Emir.k, qui a été créé par différents partis politiques, nous dit-on, serait en tête des sondages, ce qui est en fait une preuve que les mentalités sont en train d'évoluer et que peut-être, bientôt, d'abord au niveau communal et puis peut-être plus tard au niveau belge et européen, nous serons dirigés par des intelligences artificielles. Pourquoi pas ?
Moi, j'y crois.
Voilà.
Voilà, c'était le petit journal des news de l'actu de la science 2053. 1983. Le collectif a été ravi de participer à ces 35 ans de...
Oui, encore joyeux anniversaire.
Bravo Radio Panique.
Merci Radio Panique. Et voilà, et on va continuer à être sur Radio Panique le mardi de 19 à 20h, le premier et le troisième mardi du mois. si Panic continue à nous accepter.
Et retrouvez-nous sur Facebook, Collectouf, K-O-2-L-E-K-T-O-E-F.
Et restez connectés à Radio Panic. Jusqu'à demain, 35 ans.
À plus.
Salut.